La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Nous sommes en direct comme tous les soirs dans l'After, premier podcast de France, votre espace de liberté à vous les supporters et acteurs du monde du foot. Le 32-16 est ouvert pour analyser les matchs du jour à l'Euro jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs pendant la compétition. Et comme tous les soirs pendant la compétition, la libre antenne de l'After suivra de minuit et demi à 1h30 du matin. Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Et Kevin Diaz également est là. Kevin, bonsoir.
Salut à tous.
Au programme, les gars, analyse donc des matchs de ce samedi. Victoire de l'Italie à l'instant face à l'Albanie 2-1. L'Espagne bat la Croatie 3-0. La Suisse bat la Hongrie 3-1. Elle est drôle de l'âme dans quelques instants avec nous. Il y aura aussi l'actu de l'équipe de France au programme tout à l'heure. Direct Studio est là également. Si vous voulez nous envoyer des messages sur nos applis RMC et RMC Sport, c'est gratuit. Et ça vous permet d'entrer en interaction avec Florent, avec Kevin. Donc n'hésitez pas à télécharger les applis et à envoyer des messages sur Direct Studio. Avant vos 3 points, le score final au rugby entre Toulon et La Rochelle. Winnie Claret, La Rochelle qualifiée.
Effectivement, La Rochelle qui rejoint Toulouse en demi-finale vendredi prochain après sa victoire 34-29 face au RCT ici à Mayol. Les Toulonnais qui ont été complètement submergés par les opportunistes rochelais malgré un essai après le buzzer du talonneur remplaçant Jack Singleton pour Toulon. Ils n'ont rien pu faire, il y avait trop d'écart. 29 donc pour Toulon, 34 pour La Rochelle, et donc un remake de la finale en demi-finale. Toulouse-La Rochelle vendredi prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux.
Merci, bonne soirée. Bon, l'essentiel c'est que demain Grenoble monte en top 14. Le FCG des mammouths.
Attention, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait d'accord ici à RMC. Il y en a qui aiment beaucoup Montpellier.
L'important, c'est que Van ait planté le drapeau breton sur la carte du rugby. C'est vrai.
Par exemple.
Allez, les 3 points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes 3 points après cette deuxième journée de l'Euro.
Bah écoute, 3 matchs, 3 points. J'ai envie de te dire que d'abord le premier point sera le premier match de l'après-midi avec une équipe de Suisse quand même très intéressante, même si on a pu être déçu par la Hongrie. En deux, bah, c'est la démonstration de l'Espagne qui a vraiment été impressionnante avec une belle équipe, avec un jeu rafraîchissant. Et en trois, bah, c'est bien sûr la victoire de l'Italie qui a été à réaction après s'être fait surprendre dès la première minute, mais qui ensuite a plutôt bien maîtrisé, même s'ils se sont fait peur un petit peu en fin de match.
Bon, hein, l'Italie sur le match du soir qui fait le job, mais qui montre aussi certaines limites, peut-être plus si on veut comparer par rapport aux autres gros. Et puis on le savait qu'il y avait des limites. Il se rassure surtout d'ailleurs ce soir, enfin, en ayant cette victoire. Le 2, c'est les gros justement qui sont au rendez-vous de manière assez spectaculaire. Espagne, Allemagne et donc quand même Italie. 4 buts par match aussi, donc pas mal de buts. Et effectivement, je rejoins Kevin sur l'Espagne. Ce sera intéressant de voir l'évolution du style de l'Espagne. Moins de possession, mais plus d'efficacité. Puis en 3, je vais sortir du cadre, pas de l'Euro, mais des matchs, pour souligner la prise de parole de Marcus Thuram, qui est une prise de parole rare et courageuse dans le monde du foot. Et donc, je pense qu'on va en parler, on aura l'occasion.
On entendra tout à l'heure.
L'éducation qui a été reçue, effectivement, par son père.
Voilà, qui s'est prononcé sur les prochaines législatives. Ce sera tout à l'heure, une fois qu'on aura analysé tous les matchs du jour. Johan Crochet, là. Salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et Johan, évidemment, qui suit entre autres l'Italie pendant cet Euro. On va démarrer par analyser ce match. Supporters italiens et albanais, le 32-16 est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, à la fin quand même, on va dire que les Italiens, ils ont eu du mal à plier l'affaire, hein. Bon, ils ont gagné, l'essentiel est là, mais enfin, c'était pas extraordinaire.
Ouais, la première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne. Vraiment de qualité, avec pas mal d'occasions. Et toujours, à force de me répéter, mais toujours ce problème de finition devant. Quand tu fais le poteau sur le... Alors, l'arrêt de Strakosha est très beau, hein, sur le petit piqué de Fratesi. Mais Pellegrini en a deux belles également. Scamacca en a une belle en face-à-face aussi. Donc... La première mi-temps est vraiment de qualité, au-delà même de ce qui est presque trop gros pour être la réalité, c'est-à-dire la touche de Federico Di Marco au bout de 20 secondes. La deuxième a été plus compliquée parce que le sentiment que ça m'a donné, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la volonté de gérer dans un premier temps, parce que finalement, quand tu as une ligne de 6, une ligne de 3, une ligne de 2 côté albanais, bah, tu peux gérer un petit peu comme tu veux. La deuxième difficulté ensuite qui est arrivée, c'est...
Ça fait 12 ça, non ?
Non, bah non, je mets le gardien.
Ah, tu mets le gardien, parce qu'à un moment donné, il y avait une vraie... Non, parce que je dis ça, parce que tu as une vraie ligne de 6 devant le gardien.
En première mi-temps, il y avait une ligne de 6 devant le gardien.
Ouais. Okay.
Tout à fait. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec un tout petit peu plus d'ambition. Ouais. Ils avaient passé une ligne à 5. Mais ensuite, est venu le volet physique, où on a eu des joueurs qui étaient vraiment en difficulté, avec du déchet technique. Et surtout, dans le contrôle, ils ont endormi la rencontre, mais ils se sont endormis eux-mêmes. C'est-à-dire que la première pensée était pour le jouer derrière et conserver le ballon, ne pas prendre de risques pour ne pas offrir de transition. Mais finalement, ils ont perdu les ballons quand même sur des erreurs techniques au bout d'une succession de 30 ou 40 passes. Et tu te fais peur, comme tu l'as dit, Gilbert, sur l'occasion de Manaï, sur le dernier tir croisé légèrement au-dessus.
En fait, c'est une Italie un peu telle que tu nous l'avais décrite. C'est ça, c'est sans marge. Moi, j'avais envie de dire convalescente et de retour en première période, parce que, mine de rien, le scénario... Il est quand même compliqué. Ouais. Tu vois, c'est embêtant de te prendre ça en plus sur une grossière erreur. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi. Là, tu l'as dit. En revanche, après, un peu à l'italienne, à la différence justement des autres gros, pour ça que je faisais cette comparaison dans mes trois points, qui eux ont décidé d'aller marquer le deuxième, d'aller marquer le troisième, voire d'aller marquer le quatrième et le cinquième. On m'a dit à 2-1, tiens, c'est reparti, il va y avoir plein de buts. Évidemment, j'ai pensé au petit penchant italien, tu vois, de la gestion. J'envoyais un troisième pour tout te dire, pour se mettre à l'abri quand même.
Mais ils ont les occasions, hein, Flo.
Ouais, bien sûr, il y a les occasions.
Ça, ouais. Mais à pas dire qu'ils sont mis en mode gestion. Hein.
Bah, ils sont mis en mode gestion mi-temps. Quand même en deuxième. Sur les 20 dernières minutes, par exemple, à un moment donné, ils se sont dit, bon, stop, on arrête.
En mode gestion, je sais pas, en mode gestion avec Donnarumma dans les cages, on y reviendra.
Oh, bah, l'arrêt qu'il fait quand même sur.
Oui, il en fait un.
Il est de lui, l'arrêt.
Oui.
Après, les arrêts de Donnarumma, ça n'a jamais été un problème. C'est quand même un gardien qui est très fort sur sa ligne. Par contre, on en parlait encore une fois avec Flo. À chaque fois qu'il y a quand même un corner, même en Italie, ils ne sont pas rassurés.
Le but qu'il prend, petit côté, là.
Mais tu sais que...
Non, alors ça, c'est encore une chose. Une belle frappe, quand même. Belle frappe.
Elle est légèrement déviée, au passage.
Moi, je veux dire, un gardien de but qui prend un but là, il sait que c'est pour sa gueule. Il sait que c'est pour lui.
Autre, parce que le ballon est dévié et que la trajectoire.
Tu peux pas prendre un ballon petit côté là.
Ça va vite. Ça va vite. C'est la première minute.
La touche qui revient dans ta surface aussi vite. Ouais. Première seconde, t'as pas ton placement, t'as pas ton truc à la limite. Non, il y a une action emblématique du problème de Donnarumma dans les airs. J'en parlais avec Kéline. En première période, je sais pas si tu te souviens, Johan. C'est une période où c'est une phase où comment il s'appelle l'arrière droit mince.
Le vrai arrière droit. Enfin.
Non, là aujourd'hui. Italien. Ouais, Di Lorenzo, mais en corner. Et ils sont que tous les deux. Il n'y a pas d'attaquant. Donnarumma peut aller la pêcher, si tu veux, en parlant fort. Et quand Di Lorenzo la met en corner, il lui dit hey, en gros, je l'avais. Et Di Lorenzo lui fait style ouais, enfin, je sais pas, il a répondu un truc du style bah écoute, moi, dans le doute, j'ai mis en corner. Et je trouve que cette action, elle était emblématique d'un truc que lui pouvait pêcher sans problème. Ils ont un corner contre eux. Donc, c'est quand même, je pense, ça restera pour le PSG comme pour l'Italie. On en reparlera, on verra hein, dans l'évolution de l'euro, mais ça reste un souci. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il te sauve sur sa ligne, te fait toujours les arrêts nécessaires, c'est vrai aussi. Quoi. Le débat, il est toujours le même. Quoi.
Ouais, non, mais c'est bizarre de commencer l'analyse du match par Doran.
Non, c'est sûr que c'est pas non, ça non, le, mais le point crucial.
Non, c'est ma faute.
Là, c'est Gilbert.
Parce que t'aimes bien le bâcher, on le sait, Gilbert.
Moi, je suis désolé, je vois à chaque fois que c'est défaut. C'est comme ça.
Après, il y a quand même 812 passes dans ce match, 750 réussies. Ils ont quand même ultra dominé, bien sûr, cette équipe d'Albanie. Et ils ont quand même mérité de gagner, même si c'est vrai qu'ils se sont fait peur à la fin. Moi, j'étais quand même agréablement surpris par cette équipe d'Italie, puisque tu prends un but à la première minute, t'es pas dans une des meilleures périodes de cette sélection. Ils auraient pu baisser la tête, mais même s'il y avait peu d'adversité en face, je trouve qu'ils ont quand même très très bien réagi, notamment dans les 45 premières minutes.
Mais tu vois, Kevin, là où c'est, je trouve que c'est un peu dommage. Alors on attendra de voir ce qu'en disent les joueurs et Luciano Spalletti, mais tout le travail préparatoire qui était de très bonne qualité en première mi-temps était mis en valeur parce que ensuite tu enchaînais sur un changement de rythme et de la verticalité. En deuxième mi-temps, tu avais toujours ce travail préparatoire très intéressant avec des joueurs qui bougeaient, qui se mettaient en mouvement, qui étaient offraient des solutions de passe proches aux porteurs du ballon. Sauf que derrière, tu n'avais plus aucun changement de rythme, plus aucune verticalité, plus de mouvement de profondeur. D'ailleurs, c'est pour ça que Spalletti criait énormément sur le bord du terrain. C'est ce que rapportait l'homme de terrain de Sky Italia. Et donc,
c'est vrai, on l'entendait
tout ce
même
travail préparatoire ne servait à rien d'autre que d'endormir l'adversaire finalement. Et c'est là où, à force d'endormir l'adversaire, moi je considère qu'ils se sont endormis et qu'en voulant jouer petit bras, tu as failli perdre très gros et perdre 2 points. Et oui, perdre 2 points.
Après, il y a en fait dans ce match, il y a à la fois plein de promesses, c'est un peu ce que tu dis, et plein de quelques limites. Craintes. Ouais, plein de limites. Mais les promesses, tu vois, sur le premier Chiesa, dont on peut penser qu'il va retrouver, tu vois, qu'il a retrouvé ses jambes là sur la première mi-temps, tu t'es dit ça peut être top, ça peut être génial. Mais effectivement, même Scamacca, que toi et moi aimons, à la fois dans sa finition, il manque quelque chose. Et quand c'est, je sais plus qui fait la tête derrière lui, ça doit être Pellegrini, qui croit que Scamacca va toucher, sans doute, c'est pour ça qu'il rate sa tête. Mais c'est vrai que là, on voit quand même des carences. De finition pour le très
très Scamacca, je trouve qu'il manque un peu de finesse quand même. Je sais pas comment vous voyez le joueur,
c'est sûr que c'est pas Diego Forlán quoi. Ça manque un peu de finesse.
Un peu brut de pomme quoi.
Après, quand t'as un gars qui a sa morphologie, c'est quand même très très rare que ce soit un gars très fin techniquement. Maintenant, c'est un gars quand même qui pèse sur une défense. C'est un joueur intéressant. Moi, j'aime bien. Alors je sais pas, hein, parce que c'est vrai que toi qui suis beaucoup la Roma, moi Pellegrini j'aime beaucoup celui qui fait quand même la passe D, il a quand même un sacré pied. Alors certes il rate ce but, mais il est un peu en déséquilibre, il tombe un peu sur les fesses, il essaye de la remettre d'où elle vient.
C'est quand même un pénalty en mouvement, c'est incroyable, hein, je trouve.
Ouais, mais c'est pas facile parce que
qualité-là.
Ouais, mais l'idée, c'est bien joué d'essayer de la remettre d'où elle vient en fait. Il est sur les talons et donc du coup, il a du mal à cadrer.
C'est étonnant qu'il soit aussi peu stable. Si tu veux, des fois, on te la donne mal, on te la donne derrière toi. Là, on la lui donne super bien et il se met lui-même sur le cul.
Il a voulu faire un très beau geste en fait. Un contre-pied presque sur les
gardiens. Non, mais c'est tout ça, ça montre plusieurs. Il y a plusieurs phases où. Moi, Scamacca, je suis moins sévère que vous sur la technique parce que j'ai remarqué qu'en point de fixation, il ne perd pas le ballon, il va le ramener sur le côté à un moment donné, il la prend, il la garde, il la redonne et tout.
C'est pas un peintre. Hein.
Non, mais c'est pas tant ça. Moi, c'est plutôt dans la finition, vraiment, que tu l'as dit, pour Pellegrini, pour Scamacca aussi, mais pour Fratesi aussi, parce que. Oui, c'est vrai qu'il y a l'arrêt du gardien.
C'est le geste juste, hein, quand même. Ouais,
c'est l'arrêt du gardien. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on ne voyait pas, mais c'est vrai qu'il y a l'arrêt, donc ça on va l'enlever. Et après, j'ai un doute aussi, moi, sur le côté physique pour le milieu de terrain. Parce que si les 60 premières minutes, on peut dire, à peu près, ont été vraiment bien gérées.
Ouais, c'est ça.
Mais la dernière demi-heure, t'es quand même. Alors oui, on va dire qu'il y a une prépa aussi un peu foncière qui peut se ressentir. Quand tu veux aller plus loin, ça peut être logique. Mais je trouve que.
Il y a Barella qui revient de blessure aussi, qui n'a pas joué.
C'est vrai.
Moi, je pense qu'ils ont eu peur un peu aussi à la fin.
Totalement.
Oui.
Totalement.
Ouais, sans doute. Donc ils sont pas en pleine confiance. Donc effectivement, une équipe comme ça à 2-1 à 20 minutes de la fin, tu retombes un peu dans les trucs. Mais physiquement, j'ai vu beaucoup de ça crampait beaucoup quand même très tôt. Bon voilà, après
ils ont peut-être fait une préparation à l'italienne.
Ouais, même si maintenant tu sais, il y a plus beaucoup de clubs qui font des préparations à l'italienne comme avant, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais, c'est un peu en deux points la deuxième mi-temps. C'est un, le contrôle, mais où tu t'endors, et deux, l'élément physique qui vient se rajouter à ça et qui fait qu'à la fin tu paniques un peu parce que avec ton problème physique, tu arrives plus à ressortir des ballons, tu allonges et tu perds tout de suite le ballon. Je trouve que par exemple, Jorginho, il fait vraiment pas un dernier bon quart d'heure. Ouais. Il y a beaucoup de ballons perdus sur des passes mi-longues et des passes assez simples quand même.
C'est surpris qu'il reste sur le terrain en fait.
Ouais. Mais t'as pas beaucoup de solutions au milieu de terrain.
Alors, et après, il y a un truc positif que j'aime beaucoup dans cette équipe, et là qui n'est pas du tout dans la tradition, la vieille, hein, de tradition italienne, c'est l'apport des défenseurs devant. offensivement. C'est-à-dire que ce soit Di Marco, même Calafiori, pas devant, mais à un moment donné, il a franchi les lignes. C'était lui qui était. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il a fait quelques fautes et une faute très, très grossière quand même, qui lui vaut un carton jaune. Mais même Di Lorenzo, on le retrouve très, très souvent devant. Et moi, j'aime beaucoup cette. Di Marco, Di Lorenzo, c'est top.
Di Marco, c'est un attaquant, le mec. Hein,
ouais. Et Cambiasso, qui c'est une vraie solution. En plus, il peut jouer des deux côtés. Et lui, il est plus. Il a plus les qualités limites d'un milieu de terrain que d'un latéral, mais ça t'amène une autre possibilité, une autre palette pour contrôler le jeu sur les côtés, et c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Je trouve vraiment qu'au milieu de terrain, quand Cristante rentre, tu n'as pas du tout le même contrôle de balle, tu n'as pas non plus la même énergie, tu es plus à l'aise dans le jeu aérien, et ça a été important sur les longs ballons à la fin de l'Albanie. Mais il te manque quand même globalement quelque chose. Alors on verra ensuite, parce que tu mets Pellegrini dans un poste très offensif, excentré côté gauche, même s'il se réaxe très facilement. Il faudra voir si c'est la teneur de tout l'Euro, ou si des joueurs comme, je sais pas, Zakaï et Al-Sharaoui peuvent donner une contribution et avoir un Pellegrini un petit peu plus bas sur le terrain. Mais oui, le déficit physique au milieu de terrain entre un Jorginho qui a du mal à finir les matchs, mais de manière assez globale, et un Barrel là, qui revient de blessure. Bon, Barrel, là, il finit le match. Enfin, à partir de la 60e, il y a plus d'essence. Hein. Il est carbo, mais il tient parce que c'est ton leader technique, c'est ton meilleur joueur de l'équipe, et donc
ouais, c'est clair
un maximum sur le terrain.
C'est clair que c'est vraiment le leader de cette équipe, avec en plus ce but qui techniquement est extraordinaire. Je sais pas si vous regardez bien, mais en fait il prend le ballon de la cheville.
Même
pas du pied, en fait il prend le ballon du bas de la cheville, mais il est tellement bien équilibré qu'il arrive à trouver le cadre. C'est un très très beau but de foot.
On continue le débat sur ce match dans quelques instants au 32-16. Oh, l'alerte est là. C'est le moment donc de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC et gagner votre voyage et vos places pour assister à France-Pologne le 25 juin prochain. Vous avez donc 5 minutes maintenant pour envoyer euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Bonne chance. Dans un instant, Jesuino avec nous au 32-16, supporters de l'Italie. Et ensuite, on passera à l'Espagne, à la Suisse, à l'équipe de France. Jusqu'à minuit et demi, l'after est là avec vous. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h17, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. Johan Crochet également, en analyse le match de l'Italie qui a battu l'Albanie 2-1 ce soir. Et Jesuino est avec nous au 32-16, supporters italiens. Salut.
Bonsoir à tous.
Salut. Ciao. Ça va?
Ouais, super, super, soulagé là.
Il y a un truc avec l'Italie, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, d'expérience, il ne faut jamais trop se fier au premier match de l'Italie dans une grande compète. Non, enfin, comme il y a une maturité quand même, bon, voilà, dans cette sélection, une façon d'aborder les compétitions, le premier match n'est souvent pas celui qui te donne une tendance claire sur la sélection italienne.
C'est sûr, parce qu'on ne voit jamais, c'est vrai que l'Italie, on ne parle jamais, parce que moi, des fois, mon favori, j'aime pas ça, parce qu'on se croit trop beau et au final, on tombe. Et je sais qu'on ne parle pas souvent de l'Italie, mais l'Italie, bon, elle répond présent. Hein. Le dernier Euro, on était là, on a commencé tranquille aussi. Mais après, ça m'a fait peur aussi aujourd'hui. La première période était très, très bien. La deuxième, plus chaud, on a failli se faire un hold-up. Hein. C'était pas loin, mais voilà, c'était chaud. Quoi. Franchement, un peu rassuré aussi, parce qu'il y a de bons joueurs, il y a des piliers et tout, et des surprises comme Calafiori. Très, très bien joué. Barella au top. Voilà, un peu déçu de Scamacca, ce qu'il a loupé. Mais voilà, après, je suis confiant. Après, voilà, je pense qu'on va ressortir un gros match contre l'Espagne. Et ça va le faire, je pense.
Ça veut dire que pour toi, l'Italie a tout pour garder son titre. C'est ce que je comprends, là.
J'espère. Après, c'est toujours dur de garder un titre. Parce que, voilà, tout le monde nous attend, je pense.
Alors moi, évidemment, on me le ressortira si l'Italie est championne d'Europe. Mais alors moi, j'y crois. Malgré tout, et même s'il y a les quelques promesses dont on a parlé, moi, j'y crois pas trop. Hein.
Je dis l'Italie... Il ne faut jamais tirer de plan définitif.
Là, on n'a pas. Tu as posé la question de défendre le titre.
Moi, on aura le début d'une réponse face à l'Espagne. oui. Qu'est-ce que ça va donner parce que c'est quand même un euro.
D'autant comme... que l'Espagne est plus impressionnée aujourd'hui que l'Italie, quand même.
Mais voilà. Donc après, là, ce sera un bon test.
On se rappelle 2006. Et je pense que tous les gars, ils veulent retourner à Berlin, hein, même Buffon. Hein, je pense que. Faut fermer les valises et retourner à Berlin, je pense. Hein. Tout le monde veut y aller. Hein. On fait le doublé. Hein.
C'est pas la même équipe. Hein.
Avec les fameux commentateurs de Sky Italia et Fabio Caressa qui dit Andiamo a Berlino, Beppe, en parlant à son compère Beppe Bergomi après la demi-finale contre l'Allemagne. On va à Berlin, Beppe. Et effectivement, le chemin tout tracé. D'ailleurs, ce soir, c'est marrant parce qu'il joue à Dortmund. Mm. Et Del Piero était là pour la télé italienne, pour Sky, une des deux télé italiennes. Et il y a eu beaucoup d'allusions à cette demi-finale gagnée contre l'Allemagne en 2006.
Oui, tu as eu une première réaction, je crois, de Spalletti, là, que tu as vu, Johan.
Oui, alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que dans la deuxième mi-temps, lui, alors il commence par dire qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont plu, et que finalement c'est une bonne première prestation de l'Italie. Par contre, ce qu'il a pas trop aimé, c'est que ce qu'on disait, hein, ils se sont créés des opportunités en deuxième mi-temps où ils auraient pu aller de l'avant et finalement ils faisaient que des passes en arrière où ils reprenaient un temps de jeu pour reconstruire quelque chose lentement et ça l'a passablement agacé. La deuxième chose, et c'est ce qu'il faut retenir je pense, c'est qu'il l'explique, parfois on est trop dans le confort et on n'est pas assez méchant. Et je pense que la deuxième mi-temps, il va y avoir un gros débrief demain hein, pour les joueurs en disant « Ok, la première mi-temps, elle était vraiment à un niveau de championnat d'Europe des Nations. La deuxième mi-temps, par contre, il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, on peut étendre... allez, ils ont bien fait jusqu'à la 55e. Mais à partir de la 55e, ça a été nettement insuffisant et ça n'a pas trop plu à Spalletti non plus. Et Barella a confirmé hein, qu'il était totalement cramé en deuxième mi-temps.
Bon, tu es d'accord avec ce que j'ai dit là sur les premiers matchs de l'Italie, que c'est jamais
forcément y a pas
une tendance définitive sur cette équipe.
Non, il y a pas de vérité absolue, ça c'est clair. Il faut quand même au-delà même de comment tu démarres sur le plan de la prestation, ce qui a été très important, c'est de tout de suite engranger 3 points. Parce que dans cette espèce de tout petit championnat où avec les meilleurs troisièmes tu passes, normalement 3 points ça doit te permettre aussi de passer. Donc,
en fait avec 3 points t'as pris, enfin, en tout cas avec 4 t'es qualifié, mais ouais. Avec 3 tu peux l'être, voilà.
Ouais, exactement. Donc ça te libère aussi un petit peu mentalement pour une équipe qui a pas un énorme vécu ensemble, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui étaient à l'Euro précédent qui sont dans cette sélection là. Et donc ça aussi libère sans doute un petit peu les joueurs avant d'affronter les deux gros morceaux du groupe, Espagne et Croatie.
Alors je remercie Jésuino. J'aimerais qu'on fasse quand même une évaluation un peu plus poussée. On peut y aller sur les Italiens, parce que bon, effectivement, même s'il y en a qui ont fini cramé, Barella a fini cramé, ça n'empêche pas qu'il ait fait un très bon match.
Barella, c'est bien dans la tradition de ces meneurs et de ces joueurs qui font la diff comme ça, techniquement, quand un pied incroyable. Bon, j'espère qu'il va physiquement en plus reprendre du. Enfin, revenir fort. Après, moi, j'ai vraiment bien aimé, parce que je le connais peu, Calafiori. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Déjà, c'est sa troisième sélection, c'est ça ?
Alors là, c'est la quatrième, je crois.
Quatrième, enfin, en tout cas, voilà. Je veux dire, pour un jeune
joueur... Non, c'est la troisième, t'as raison, c'est la troisième.
Troisième, j'ai entendu ça, pour tout te dire. Mais troisième sélection, j'ai trouvé que le gars, une prise d'initiative, de responsabilité, une qualité, pour le coup physique, un apport important. Moi, j'ai adoré.
Son profil, hein. Alors, juste pour expliquer, c'est un latéral de formation, latéral gauche. Et ça fait que quelques
1m88, latéral gauche ?
Ouais, exactement. Et c'était d'ailleurs un des plus grands espoirs du centre de formation de la Roma. Il a eu une grave blessure. Et ensuite, il a eu du mal à revenir. Et Mourinho lui a pas trop fait confiance. Mais comme c'est un jeune, c'était un peu logique avec Mourinho. Il est parti à Bâle. Il a commencé à jouer un petit peu central. Et c'est vraiment Thiago Motta à Bologne qui l'a remis en défense centrale. Enfin, qui l'a mis en défense centrale, qui l'a imposé là. Et
certains membres de la flotte auraient dit qu'il a pas fait son trou à Bâle.
Oui, bon, par exemple. Mais il est en vacances. Enfin, il est off, comme on dit. Donc, non, mais.
Beaucoup de joueurs de Bologne, alors, il y avait plein de Suisses, là, cet après-midi.
Ouais, Freuler, Aibischer, je crois qu'il y avait. Endoy.
Zirze, du coup. Trois Suisses, ouais.
Vous voulez dire un euro à sauce bolognaise?
Ouais,
quand même. Mais oui, Calafiori, dans l'utilisation du ballon, il est très intéressant. Attention, par contre, à la gestion de la profondeur. sur les dernières minutes de match, tous les longs ballons en profondeur, il a eu vraiment du mal à gérer la trajectoire. Et autre chose, parce que comme tu es sur un, je vais pas dire un non-match, mais une sorte de d'attaque-défense quelque part, tu t'attaches à plein de petits détails que tu vois comme ça et tu te dis attention sur les matchs suivants, ça passera pas. Mm-hmm. Bastoni, les mains baladeuses à tirer les maillots et à pousser dans la surface les joueurs,
exact.
Il va vraiment falloir faire attention parce que tu peux le faire une fois pendant l'Euro, mais ça passera pas tous les matchs.
Ouais, c'est clair, c'est clair qu'il y a eu, des situations. Enfin là, pour ça, l'Italien, il faut qu'il fasse gaffe. Même le carton pris très tôt, ils font faute. D'ailleurs, les Suisses, c'est un peu pareil. Les fautes, entre guillemets, là, qu'on appelle utiles, tu sais, genre je fais faute, ouais. Oui, monsieur l'arbitre, il y a faute, pas de problème, je prends le carton. Je crois que c'est. C'est Pellegrini, hein, c'est ça, ouais. Bon, très tôt quand même, hein, très vite. Ok. Ça aussi, dans des matchs plus chauds, plus costauds, ça demande des gestions. En tout cas, ouais, effectivement, tu as raison. On n'a peut-être pas vu avec l'opposition, avec le jeu offensif adverse, parfois inexistant, mais moi, j'ai bien aimé l'attitude et les qualités de ce joueur-là. Quoi.
Ouais, après, moi, je trouve Calafiori, évidemment. Barella, Pellegrini fait une première mi-temps vraiment très intéressante. Après, il plonge un peu physiquement. Chiesa.
Chiesa a été élu homme du match là, par l'UEFA. Comment on juge le match de Jorginho, qui était le mec étincelant du dernier Euro?
Bah, il est très utile dans tout ce qu'a fait l'Italie, finalement, dans le contrôle. Je veux dire, quand tu as un match comme ça à contrôler, évidemment que Jorginho, il est très, très utile. Par contre, vraiment, je réinsiste là-dessus, dans les 15-20 dernières minutes, le nombre de ballons perdus, où tu te dis, si tu es dans le contrôle, mais que tu n'avances pas, c'est pas pour perdre le ballon. Si tu fais des passes latérales à 10 mètres ou à 15 mètres qui sont molles et qui sont interceptées, à ce moment-là, bah, accepte de prendre plus de risques et donc de perdre des ballons, mais qui vont t'apporter d'autres choses sur phase offensive. Là, ils ont contrôlé, mais en perdant des ballons... En Italie, on dit sanguinose, ou un ballon qui, en gros, peut te faire très mal.
Des ballons chauds, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, un ballon qui peut te faire extrêmement mal en transition. Donc là-dessus, je trouve que Jorginho, avec l'expérience qu'il a, il doit être en capacité de mieux gérer ces situations-là.
Après, il y a quand même un problème avec Jorginho, c'est qu'il joue un football d'un autre âge quand même. Il est quand même très très lent. C'est difficile de quand il est fatigué. En plus, comme tu as dit, sur les 15-20 dernières minutes, ils étaient tous fatigués. Donc déjà que lui, il n'est pas très rapide. Donc fatigué, c'est vraiment très très lent.
Mais et ça
donc,
dépend Kev, qui tu lui adjoins. C'est surtout ça, je pense, la clé.
Non, mais bien sûr, mais à partir du moment où Barella est fatigué, donc du coup, tu as un changement. Ouais. Après, quand il y a des changements, il y a quand même deux joueurs sur les trois milieux de terrain qui sont remplacés. Donc forcément, l'alchimie au milieu de terrain, elle met un peu de temps à se refaire ou elle ne se refait pas du tout jusqu'à la fin du match, quoi.
Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, moi, le manque de dynamisme au milieu de terrain, vraiment...
Je veux dire qu'il manque Verratti.
Non. T'en profites que Daniel soit pas là, toi. Non, c'est même pas ça. C'est plus vraiment, tu vois, des joueurs du profil de Barella et Fratesi. Il en faudrait un troisième pour qu'en cours de match, tu aies ce type de profil qui t'amène beaucoup de dynamisme. Florunso est capable plus ou moins de le faire, mais on est quand même sur un niveau inférieur, hein, au-delà même de l'expérience, sur le niveau global du joueur. Et derrière, Cristante n'est pas du tout ce prototype de joueur-là.
Ah bah non.
On peut espérer sur Fagioli. Fagioli est un meneur de jeu reculé qui est très intéressant. Il faudra voir d'ailleurs, hein, si au cours de l'Euro, là, Fagioli ce soir était blessé et il pouvait pas être titulaire, il pouvait pas jouer. Mais je suis pas persuadé que sur l'Euro, on puisse pas avoir un milieu à trois définitif avec un double pivot, double playmaker, Fagioli, Jorginho, Barella un peu plus haut, Pellegrini aussi. Faudra voir comment ça s'articule, mais Fagioli, il est très apprécié de Spalletti.
Dis-moi, le meilleur numéro 9 italien en ce moment, c'est Scamacca? De ton point de vue?
Oui, moi je pense que oui. Moi, c'est un profil que j'adore, mais je concède aisément que en sélection, devant le but... C'est pas ça. Il suffit de regarder tout bête, hein, les stats. Un seul but en sélection, c'est pas suffisant. Moi, j'adore ce profil. Et le lundi soir, dans les Drôles de Dames, avec Nico Jamin, j'en ai parlé très souvent. Moi, j'apprécie tout ce qu'il est capable de faire. Il y a une différence entre le faire en Serie A et le faire. C'est un peu avec des profils totalement différents, hein, mais Immobilier, il mettait 30 buts par saison en Serie A. Arrivé à la sélection, c'était dur. Mais de toute façon, hein, dites-vous bien que. Au-delà même du simple cas Scamacca ou Immobilier la dernière fois, vous savez quel est le meilleur buteur en sélection depuis 2000?
Vieri?
Ah non.
Bah, vas-y, en sélection?
Bah, ouais, en sélection, depuis 2000.
Depuis 2000? Pas Del Piero.
Sur ces 24 dernières années.
Del Piero?
Non.
Ah, Inzaghi alors?
Non plus, c'est Daniele De Rossi.
Ah ouais, c'est des pénalties alors.
Ah oui,
beaucoup de pénalties et des frappes de loin. Oui. Donc c'est pour montrer que même à une époque où il y avait beaucoup de neufs, les Montella, Vieri, Inzaghi, etc., bah, c'était pas forcément beaucoup mieux. Mmh. Alors ils marquaient eux quelques buts, Lucatoni, Gilardino, ils marquaient quelques buts quand même. Mais on n'était pas non plus sur des mecs, des Miroslav Klose qui te mettaient je sais plus combien de buts sur une édition de Coupe du Monde. Hein.
Un mot sur l'Albanie quand même pour conclure les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé
d'ailleurs le buteur joue en Italie.
Ouais, bah, il y a Rami à Sassuolo.
Il y en a beaucoup qui jouent en Italie.
Ouais, ouais, il y a le capitaine. Il y a des liens importants entre les deux pays.
Il y a 10 convoqués sur 26 qui jouent en Italie.
Ouais, comme les Suisses vont jouer en Allemagne, les Albanais vont jouer en Italie.
L'Albanie, en fait, a été. Enfin, le côté aussi bas, aussi bloc bas à ce point, moi, m'a un peu
gêné. En plus, quand tu marques à la première minute, voilà, ça t'aide pas.
M'a un peu gêné parce qu'après, effectivement, ils se sont clairement dit on va faire comme ça et on va aller essayer de les piquer en contre. J'ai préféré l'Albanie finalement de la deuxième période puisque paradoxalement ils n'ont pas marqué mais au moins comme le disait Johan ils ont quand même sont pas restés avec leur ligne de 6 là derrière, ils ont décidé d'avancer un peu, c'est quand même limité. C'est pour ça que au regard de ce qu'on a vu sur les autres grosses nations, tu vois, que l'Italie se soit fait, on va dire, autant peur, aussi peur avec cette fin de match, c'est quand même un peu embêtant.
Et ce qui est dommage, moi je pense vraiment qu'ils avaient les moyens de plus gêner l'Italie en jouant un petit peu plus, ouais, parce que pour connaître beaucoup de ces joueurs-là qui jouent en Italie, il y a vraiment des joueurs avec une belle qualité technique et capables de poser pas mal de problèmes.
Et puis il leur manque peut-être un mec un peu chapeau 1, quoi, et, tu vois.
Ouais, sans doute. Ouais, t'as raison.
Non, mais le but est un faux ami, en fait, leur but. Non, mais le but à première minute, c'est paradoxal, mais si tu veux, effectivement, ils se sont tout de suite mis derrière, bam, et puis on arrête de jouer parce que c'est inespéré. Et alors que peut-être que, tu vois, ce qu'ils ont montré
par cette première période, ils étaient capables de le faire. Sur un petit coup du sort, ils ont pu égaliser quand même.
Mais je pense que si l'Albanie fait le même type de match contre l'Espagne et la Croatie, ça va être trop dur à eux de sortir plus, à eux de. Parce que bien même sûr, l'Espagne, on l'a vu aujourd'hui, hein, l'Espagne, défensivement, tu peux les mettre en difficulté. Hein, donc à eux de jouer sur leur vraie qualité et pas faire ce que disait Flo, une ligne de 6 de la deuxième à la 45e minute, c'est pas possible.
Hein. À la 30e minute, tu regardais les visages, ils avaient tellement couru dans le vide déjà, c'était trop dur, trop trop dur. Et t'as raison sur l'Espagne, c'est une bonne remarque. Dans la foulée de leur but, de chacun des deux premiers buts, tu rentrais comme du gruyère dans la défense espagnole. Les Croates ont une occasion après chaque but espagnol quasiment. Donc et là, c'est pareil, l'Espagne a clairement été la meilleure, mais si tu regardes bien le match, t'as des opportunités.
Ouais, c'est l'équipe qui doit jouer. Ils peuvent en prendre 4 aussi contre l'Espagne.
Oui, par contre, ils peuvent en prendre beaucoup.
Ah oui, bien sûr, aussi. Mais en tout cas, quitte à ça, justement, t'as intérêt, quand même, aujourd'hui, c'est quand même l'histoire un peu du foot moderne. Intérêt d'essayer de jouer, d'essayer de faire quelque chose plutôt que d'attendre.
On va en parler de l'Espagne dans quelques secondes. Merci Johan. Demain les Pays-Bas jouent contre la Pologne.
Exactement. Donc, à demain alors.
Exactement, tu seras avec nous. Match du groupe de la France.
Non, mais n'empêche que la réussite des gros là, dont on parle met un peu la pression sur les futurs qui arrivent. Gros. Ah, oui, c'est-à-dire le Pays-Bas contre la Pologne, la France contre l'Autriche. Tu te dis, bon, bah.
L'Angleterre.
Montrez-nous. L'Angleterre aussi, évidemment. Mm.
Dans un instant, débrief du match de l'Espagne face à la Croatie tout à l'heure, 3-0 pour les Espagnols. Et puis je vous rappelle que lors de chaque match de l'équipe de France dans cet Euro, l'After sera dans des villes qui étaient les premiers clubs de certains internationaux. Lundi, pour le match de l'équipe de France, l'After sera à Mâcon. Et oui, on sera au stade là-bas, au stade où Antoine Griezmann a démarré. Vous pouvez venir assister à l'After. Hein. Lundi, vous envoyez un petit mail à public@rmc.fr. Il y a de la place. Hein. Il y a aux alentours de 1000 places pour assister à l'émission et regarder le match en plus. Il y aura aussi l'émission de Jérôme Bretagne, Rotten sans flamme, qui sera là lundi. Donc à Mâcon, n'hésitez pas, vous trouvez toutes les infos sur rmcsport.fr. Et puis vendredi de la semaine prochaine, nous serons à Grenoble, premier club pro d'Olivier Giroud. Stade des Alpes, on sera au Stade des Alpes, là aussi vous pouvez venir, vous inscrivez public@rmc.fr. Et puis pour le dernier match de poule de l'équipe de France, on sera à Fougères, ville de
Camavinga.
Puis aller à Tours pour Giroud quand même. Ouais. Les Grenoble, c'est quand même là où on lui a dit t'as pas le niveau pour jouer en Ligue 1.
Ah, surtout, en fait, on associe
même en Ligue 2.
On associe Grenoble, son premier contrat pro, avec le club de Frauges, qui est celui où il a vraiment démarré entre Chambéry
ça,
et Grenoble.
C'est différent. Mais à Grenoble, on lui a dit au moins tu n'y arriveras pas.
On va accueillir les gens de Frauges au Stade des Alpes.
On dit Frauges.
Frauges, ouais.
D'accord.
L'autre dit Frauges.
Non, je sais pas. Je connais pas. Donc, c'est toi le local. Hein.
Ah ouais, c'est. Moi, je suis très content d'aller à Grenoble.
Toi, t'es made in Champs-Rousse, toi.
Champs-Rousse, la plus belle station du monde. Tu connais Champs-Rousse, Kevin?
Je connais pas Champs-Rousse.
Tu connais pas Champs-Rousse?
Ouais,
c'est parce que ce que t'as raté.
Toi, tu peux aller à Courchevel, à Beugey. Va à Champs-Rousse,
tu connais les sept lots, alors.
Bien sûr, les sept lots.
Collé d'Alvar.
Est-ce que vous connaissez la chapelle d'abondance? À côté de Châtel.
Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, mais va faire du ski.
Station sympa.
Va faire du ski près de Grenoble, tu verras, tu vas te régaler.
Ouais. Bah, écoute, on a été avec les RMC.
Le massif de Belledonne.
Massif de Belledonne, bien sûr. Avec,
Est-ce que tu considères que l'Alpe d'Huez, c'est à côté de
Grenoble? Le chalet de la Pra, le refuge de la Pra, superbe. Oui.
L'Alpe d'Huez, c'est à côté de Grenoble.
Ouais, bien sûr. L'Alpe d'Huez, deux Alpes. Allez, à tout de suite pour l'Espagne face à la Croatie.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Quand Gautreau est là, Kevin Diaz est là, il est 23h39. Messieurs, je vous demande d'accueillir Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
On va analyser Espagne-Croatie ensemble, 3-0 pour les Espagnols. Bah, moi, je t'avoue que je m'attendais à un match beaucoup plus serré, peut-être que toi aussi, Fred. Il n'y a pas eu photo. Bon, on va aussi parler de la Croatie. On va dire que l'Espagne démarre très bien son euro.
Oui, d'ailleurs, il y a un titre du journal AS ce soir qui dit « c'est comme ça qu'on démarre un euro ». C'est vrai que c'est le match dans le jeu auquel on s'attendait, c'est-à-dire un jeu virevoltant, un jeu très direct, un jeu que je définirais comme allègre, mais on ne s'attendait pas à un résultat aussi contondant, aussi, enfin la différence entre les deux équipes au niveau de résultat, personne n'imaginait que l'Espagne puisse battre la Croatie par 3-0. Peut-être aussi du fait de la faiblesse de la Croatie ce soir, en tout cas du manque d'efficacité.
Oui, et puis disons quand même d'un truc qu'il va peut-être falloir... on va parler d'Espagne d'abord, mais quand même, tu as raison de souligner l'histoire de l'adversaire. Le côté vieillissant, le côté un peu fin de cycle des Croates. Parce que,
T'as les jeunes en face, hein. T'as la Miniamal, Williams, et en face, t'as Modric, quoi.
C'est ça qui faisait mal, c'est-à-dire que t'as toujours la qualité de pied. Modric, il a fait ses extérieurs, ses machins, c'est vrai, mais quand tu as mis, et c'est d'ailleurs ça aussi que je t'ai entendu en parler d'ailleurs, Fred, pour moi c'est aussi une autre Espagne, moins dans la possession, plus dans la verticalité, évidemment avec Williams, mais pas que, t'as quand même ce jeu direct, entre guillemets, hein, plus direct on va dire, qui fait plaisir, et l'efficacité, parce qu'ils ont marqué très vite, très tôt, parce qu'ils les ont un peu endormis, puis ils les ont piqués. Moi j'ai trouvé que, outre le score, outre le fait qu'ils marquent, tu sais, c'est important de marquer les esprits, je trouve, en début d'euro. J'ai trouvé que surtout dans le style, c'est un style différent. Pour ceux qui n'aimaient pas l'obsession de la possession, on va dire, côté espagnol, ils sont servis. C'est pas la même Espagne, quoi.
Et d'ailleurs, lundi, je parlais dans l'after de les DDD, de la fin du tiki-taka, de ce jeu de possession, de touches de balle, de beaucoup de passes. Et notre producteur Najim me soulignait une statistique, c'est que c'est la première fois depuis 136 matchs, c'est-à-dire depuis la finale de l'Euro 2008, que l'Espagne perd la possession ce soir.
Ah.
C'est dire que, et Luis de la Fuente, le sélectionneur, disait, oui, enfin la possession, c'est bien quand tu gagnes une derrière, ce qui compte, c'est de gagner. Et ça prouve vraiment qu'il y a une évolution. Quand vous voyez, par exemple, le premier but de Morata, la transition, c'est une passe très, très en profondeur, très directe de Fabián Ruiz. Il n'y a pas eu 25 passes avant de marquer le but.
Non, mais ça plaît en Espagne, ça? Ou alors, culturellement, on se dit, c'est pas nous?
Bien sûr. Attendez, mais l'Espagne, avant l'époque, c'était la Furia. Avant l'époque de
Chavis. Oui, d'abord.
C'était la Furia, c'était un jeu très basique.
Tu parles au cinquantenaire, là, en fait.
Oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Espagnols trouvaient ridicule que pendant le mondial, avec Luis Enrique, éliminé, je vous rappelle, en 8e de finale face au Maroc au tir au but, que l'Espagne, à l'époque, voulait faire avec sans Xavi et sans Iniesta, avec des joueurs qui n'étaient pas capables de le faire, le même jeu que la grande Espagne. Non, il faut s'adapter aux joueurs actuels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as Lamine Yamal, quand tu as Nico Williams, quand tu as des côtés comme ça très performants, que tu peux jouer centré, que tu peux faire un jeu très vertical, tu n'as plus besoin du jeu horizontal. De toute façon, tu n'as pas les joueurs pour faire toujours du jeu horizontal. Donc cette verticalité aujourd'hui est la principale force de l'Espagne.
Oui, puis surtout là, pour expliquer la victoire de l'Espagne, il y a ça et il y a le milieu de terrain. La bataille du milieu, là, elle a été clairement gagnée par le milieu espagnol. On a vu un Ruiz excellent.
Oui.
Bon, Rodri, ouais,
ça, c'est la grosse surprise. Hein.
C'est la grosse surprise.
Ruiz, grosse surprise. Qu'il soit à ce niveau-là, tu veux dire ?
À ce niveau-là.
Oui, c'est une surprise.
Ah bah oui,
mais j'ai entendu un peu les trucs goguenards. J'ai vu le tweet de Daniel sur Ruiz. Ça serait marrant, faudrait le recruter au PSG en mode il n'a pas été bon. Objectivement, c'est un très très.
Tu connais Daniel, à mon avis, oui. C'était plutôt en creux pour Luis Enrique.
Bien sûr, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Luis Enrique insisté, et c'est vrai que je rappelle toujours cette petite séquence dans une vidéo de TV PSG, là, où Luis Enrique, on lui demandait pourquoi il faisait tous ces changements, ce turnover et tout. Et il citait les joueurs en disant, tiens, il peut jouer là, puis il arrivait sur Fabián Ruiz. Et t'avais l'impression qu'il était amoureux, et lui, il ne donnait pas les différents postes, il disait, merveilleux. Formidable. Il a dit ça sur Fabián Ruiz, c'est rare, faut que tu dis ça pour un joueur. Et donc, tu sens que les coachs, ils aiment ce genre de joueur. Après, je comprends, moi aussi, il m'a agacé dans cette façon parfois de perdre les ballons, de pas être efficace tout le temps. Mais techniquement, c'est un joueur exceptionnel, Fabián Ruiz. Donc aujourd'hui, il a été très bon. C'est vrai qu'il était.
Bah, c'est un espagnol, hein, je veux dire.
Il était très bon.
C'est un espagnol technique, hein, quand même.
Hein. Enfin, le but qu'il met, c'est quand même un but remarquable.
Surtout, il était très à l'aise.
Ouais, mais donc, pour finir juste, le milieu. Puisque le milieu, c'était aussi une force
croate. De la Fuente a dit ce soir, Fabián Ruiz est extrêmement sous-estimé, dit-il.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est aussi la façon dont les joueurs, Fabián Ruiz, tu le vois sur un terrain, il gueule beaucoup aussi sur ses partenaires. Mais il y a plein de fois où c'est lui qui fait pas les bons choix.
Moi, je suis pas d'accord pour dire que Fabián Ruiz il est sous-estimé. Au contraire, je pense que c'est un joueur qui a pas atteint le potentiel qu'il aurait pu atteindre. Parce qu'il y a un moment, quand on l'a découvert, que ce soit avec les jeunes Espagnols ou avec l'équipe de Naples, on l'attendait vraiment comme un milieu de terrain qui allait vraiment rester dans l'histoire du foot espagnol comme vraiment un grand milieu de terrain. Et pour l'instant, c'est un milieu de terrain qui restera pas forcément, Fred, dans l'histoire du foot espagnol. Donc ça reste un bon joueur de foot, sinon t'es pas recruté par le PSG, sinon t'es pas titulaire en Espagne. Mais moi, je suis pas d'accord avec son sélectionneur. C'est un joueur qui est très bon, mais je pense qu'il aurait pu être encore meilleur. Alors je connais pas sa mentalité, on connaît pas bien le personnage, mais je trouve que pour ses mensurations, pour sa technique à l'espagnol, je trouve qu'il aurait pu faire bien mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a été très bon. Encore une fois, cette équipe de l'Espagne, on le sait, il y a beaucoup de qualité. Il y a de la qualité technique avec notamment de la personnalité. Carvajal qui va encore marquer un but. Tu vois, ça, Carvajal, c'est un mec qui a atteint le maximum.
Sur la passe.
Oui.
La passe de Yamal. De Yamal.
Ouais.
C'est-à-dire, et puis la célébration entre les deux. C'est-à-dire que tu as le jeune symbole barcelonais et tu as le vieux capitaine.
J'ai pensé à ce truc-là, le Barça dont on parle tout le temps.
C'est vrai que le mélange jeune-vieux, là, il est assez étonnant.
Real Barça, jeune-vieux, comme ouais. Fred, là, tu as une sorte de résumé flash. Si ça marche entre deux, l'Espagne peut marcher. Moi, après, Fred, j'ai un bémol. C'est défensivement. On l'a dit tout à l'heure, on l'a abordé en parlant du match de l'Italie. Si tu remarques bien les après-buts espagnols, tu as des occasions très vite et ça va assez facilement jusqu'au 16 mètres espagnol. Donc il y aura sans doute, parce que c'est pareil, hein, la Croatie a été vraiment défensivement faible. Il faudra revoir l'Espagne dans d'autres circonstances et surtout si elle est elle-même mise en difficulté. Ayant moins la possession, elle peut l'être en difficulté et quand elle l'est, défensivement, je pense qu'il y a quand même quelques
failles. Ils ont eu moins la possession parce qu'en deuxième mi-temps, ils menaient 3-0 et donc qu'ils ont un peu laissé la possession à l'adversaire. Ouais. Parce qu'en première mi-temps, les Croates n'ont pas beaucoup vu le jour, hein, quand même. Ils ont eu très peu le ballon, les Croates. Après, en deuxième mi-temps, forcément, quand tu es mené 3-0, tu essayes de faire quelque chose pour revenir dans ce match. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une très, très belle performance, cette équipe d'Espagne.
Dans un instant, Sabir avec nous au 32-16 pour donner son avis sur l'Espagne. On dirait un mot de la Croatie. On verra si Fred a reconnu son Modric aujourd'hui ou pas. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, ce sera le match de la Suisse et l'équipe de France au programme de l'After. On se retrouve tout de suite. Polo Breitner, la Suisse est une de ses dépendances, et puis l'équipe de France, évidemment, et notamment la prise de position de Thuram, Marcus Thuram, qui fait beaucoup parler. Même les politiques se sont emparés des propos de Thuram aujourd'hui. On vous raconte tout dans quelques minutes, encore une demi-heure d'After. Et ensuite, ce sera la libre antenne de minuit et demi à 1h30. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'After Foot Intégral Euro. RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Avec Kevin Diaz, avec Florent Gautreau, l'équipe de France dans quelques minutes au programme à maintenant 48 heures de son premier match face à l'Autriche. Mais d'abord, on analyse le dernier match du jour, la victoire de la Suisse face à la Hongrie, 3-1. Qui dit Suisse dit Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Quoi qu'historiquement, avec l'Empire d'Autriche-Hongrie, peut-être que Paulo peut aller jusqu'à la Hongrie.
J'aurais pu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces noms. En fait, ça ne représente pas forcément les mêmes noms des populations.
Tout à fait. Tu as raison.
Donc voilà. Mais on peut parler du royaume des deux couronnes si tu veux, il n'y a pas de souci.
Alors non, pour l'instant, restons sur la Nati, comme on dit là-bas. Est-ce que tu as été favorablement surpris ou pas tellement par rapport à ce que tu vois d'habitude ?
Alors écoute, ça doit faire 20 ans que je n'ai pas raté un match de la Nati et on a vécu ensemble sur RMC d'ailleurs l'éclosion de ce qu'on appelle en Allemagne, en Suisse, cette génération dorée évidemment, les Homer, Shakiri, Xhaka, etc. Et ce qui était impressionnant avant la rencontre, c'est un, les Suisses ne voulaient absolument pas perdre cette rencontre. Et ils ont une expérience qui est assez dantesque aujourd'hui. Ils ont fait une qualification qui n'était pas terrible. Le sélectionneur est très critiqué. Et il nous a sorti une compo complètement folle avant la rencontre, à tel point que j'ai envoyé des SMS à mes comparses en Suisse pour leur dire c'est moi qui ai raté quelque chose ou il se passe vraiment. Et les mecs m'ont dit on n'en peut plus de Murat Yakin, il fait n'importe quoi.
Mais moi je pensais pas que la presse suisse pouvait être aussi vindicative.
Mais qui est le grand vainqueur de cette rencontre?
Bah c'est lui.
C'est le sélectionneur. Douad qui a deux sélections et qui a eu sa première contre. Parce qu'il y a Cédric Itten. Tout le monde voulait Cédric Itten, le buteur qui est en Suisse, pour la sélection. Finalement, Douad, il nous le sort, qui joue dans le championnat bulgare, qui avait eu sa première sélection.
Toi, tu dis Douad, on ne dit pas Douad.
Douad, oui. Enfin, oui. Moi, je dis Douad.
Il aurait pu jouer avec Jérémy Pied.
Voilà, mais... c'est ça. Tout à fait.
Ou Lucas.
Il marque le but pour sa deuxième sélection. Il avait eu sa première contre l'Autriche. Et Bischer, qui est un.
Et Bischer, révélation aujourd'hui.
Oui, mais en plus, à quel poste? Au poste de piston gauche. C'est-à-dire ce qu'il ne fait jamais. C'est un milieu. C'est quelqu'un qui joue toujours dans l'axe. Un but, une passe, et le joueur du match, évidemment. Shakiri sur le banc. Je peux t'assurer qu'avant la rencontre, et ces dernières semaines, j'avais une fois à nouveau échangé avec des journalistes suisses. Il me dit, mais on fait quoi de Shakiri quand même? C'est la patte technique de cette équipe. Bah, il est même pas rentré dans, donc,
oui, mais attends, Murat juste Yakin. Parenthèse Shakiri. Ouais. Shakiri joue en MLS. Oui, il est plus sur la fin que sur le début quand même.
Oui, mais c'est un peu le Modric suisse. C'est la vedette.
C'est la vedette. Il a sauvé plusieurs fois la sélection. C'est un ego aussi, tu vois. C'est comme si tu décidais de mettre Granit Xhaka sur le banc ou que tu changeais Kobel par rapport à Yann Sommer, etc. Tous ces gens-là. Enfin, Granit Xhaka, c'est Coupe du Monde 2010. Hein, faut pas l'oublier. On est en 2024. Ah, oui. Il est en MLS. Il est pas fit comme on dit maintenant. On le sait très bien. Mais tout le monde sait qu'il peut jouer 55-60 minutes. Mais quand tu vois la rencontre, et notamment la première mi-temps, le grand gagnant, encore une fois, tactique, et on lui dit, mais vous avez fait un coup de poker. Et il a répondu, non, moi je joue pas au poker, je joue aux échecs parce que je vois le jeu de l'adversaire.
Et il dit, ça t'a plu, hein?
Bah oui, pour une fois qu'il y a un coach qui est intelligent et qui dit des choses intelligentes, ça me plaît. Ouais. Mais c'est pas de la culture de masse, évidemment. Mais tout ça est passionnant parce que, il est critiqué, personne n'en peut plus. J'ai même reçu à la mi-temps, finalement, il n'est peut-être pas si mal que ça, Yakin, quoi. Et quand j'ai vu cette équipe de Suisse, et j'ai eu le même sentiment contre l'Autriche, où ils ont été bananés pendant la première période, tu te rends compte qu'il y a une expérience dans cette sélection à la Nati, qui fait que, je ne sais pas s'ils finiront deuxième du groupe, ce qu'on leur promet, et on verra bien ce qui va se passer, mais l'équipe qui va rencontrer en élimination directe en huitième la Suisse, je pense qu'il va falloir, normalement c'est soit l'Espagne, soit l'Italie, hein, soit la Croatie, c'est ce groupe-là. Ça ne va pas être évident de les sortir en huitième de finale.
Ouais, moi, par rapport à tous les gros, puisqu'ils sont moins gros que les gros dont on parlait à l'instant, l'Espagne, l'Angleterre, c'est à la fois la meilleure impression. Et la plus surprenante impression, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça, et puis alors moi en plus, comme je n'avais pas forcément suivi tous les débats tactiques, je m'interrogeais sur certains de ces joueurs, notamment l'attaquant Doua. Donc j'ai trouvé cette équipe, qui a quand même en plus un des meilleurs gardiens, qui n'a pas eu forcément à énormément s'employer aujourd'hui, mais qui a ça en réserve, qu'on va voir arriver derrière. je leur remettrai un bon gros statut d'outsider, effectivement, parce qu'il a encore des solutions sur le banc. C'est exactement ça aussi le truc, c'est que le banc de touche, quand tu vois sortir, quand tu vois Shaqiri qui sort pas, Mbolo qui rentre, il y a Okafor derrière, il y a tout ça. Là, ouais, effectivement, je pense qu'il y a, il y a du potentiel.
Ouais, une belle équipe. Et puis ils ont su imposer à leur adversaire quand même un rythme. Et c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs contre l'équipe de France il y a 4 ans, où ils avaient surpris par leur capacité de réaction, mais aussi c'est une équipe qui sait se projeter. Ils ont quand même des joueurs intéressants dans cette équipe, on le savait. Ils en ont sur le banc avec un Brel Embolo quand même, qui est un joueur qui en Ligue 1, avant sa blessure, était très en forme et qui avait fait mal d'ailleurs à l'équipe de France aussi à l'Euro 2021. Donc ouais, c'est vraiment une équipe intéressante et un entraîneur en plus qui a la classe. Il a un certain style sur le banc. Je ne sais pas s'il est critiqué, mais on a l'impression qu'il est...
Il a plutôt eu des résultats en club aussi, parce qu'il était à Bâle, Polo.
Ben il a, ouais, enfin c'est pas terrible, parce qu'il a surtout une réputation d'être un gros feignant, quoi, de rien faire.
Non, mais
quand ils ont été le chercher, à l'époque il était en seconde division suisse, donc c'était pas terrible. Et surtout Mourad Yakin, alors c'est une légende en Suisse, on le surnomme
le Beckenbauer suisse. Il est jamais venu.
On le surnomme le Beckenbauer suisse. C'était, il a joué à Stuttgart, etc.
Oui, c'était un défenseur central.
Exactement. Il est assez... Il faut voir un peu ce qu'il a subi en Suisse, parce qu'il a été sorti du chapeau, on ne le savait pas du tout. Il a la réputation, encore une fois, je viens de vous dire, de ne pas faire grand-chose, à tel point qu'on dit qu'il y a des conflits à Granit Xhaka, qui est un joueur, à l'inverse, qui a besoin d'entraînement très dur, et toute l'année, tout le temps, et que lui, il en a marre, parce qu'en gros, on ne fiche pas grand-chose avec la sélection. Et donc, on sent qu'il y a des... Il faut se rendre compte que la qualification. Il jouait dans un 4-2-3-1 qui était pourri de chez pourri. On était loin de Petkovic, version Suisse 2021, qui était la référence. Quelques mois avant l'Euro, il décide de repasser dans cette défense à 3, parce que il a, évidemment, Rodriguez, il peut, vu l'âge qu'il a, il ne peut pas jouer au poste d'arrière-gauche. Ulysse Garcia n'est pas là, évidemment. Et tu te rends compte que, et finalement, ça fonctionne. Mais quand j'ai vu la sélection, je me suis dit, c'est pas possible, il nous a remis un 3-5-2, parce qu'il a une réputation d'être très défensif. Et finalement, il a dominé la première mi-temps de la tête et des épaules. Il y a juste un défaut, c'est que la Suisse, on le voit, elle ne sait quasiment plus gérer les scores, alors qu'elle avait pris l'habitude depuis une dizaine d'années. Dès qu'elle menait au score, ça allait, verrouillait derrière, c'était fini. Là, je suis assez d'accord avec Flo sur dire que le banc peut aider. Okafor, on ne sait pas. Mbolo, on sait très bien qu'il n'a pas 90 minutes, c'est un titulaire, mais il nous a sorti une compo. Ndoye, il a passé les derniers matchs au poste de piston gauche, et là, il le met dans les trois devant. C'est assez extraordinaire. Donc, il a fait un coup de maître, il faut lui reconnaître ça. Tout le monde est surpris en Suisse de ce qui vient de se passer, parce qu'encore une fois, ce match contre la Hongrie, il ne fallait surtout pas le perdre. Les gens avaient peur. On a... À titre personnel et d'autres personnes, on est assez déçus aussi de la prestation de la Hongrie, quand même.
On les a annoncés très très fort et j'ai vraiment trouvé ça.
C'était le salut de Lionel Charbonnier.
C'est marrant, ces sélections qui réussissent bien dans un euro.
Mais en fait, les Suisses, il faut le préciser, ils flippaient sans doute parce qu'après, il y a le match contre l'Allemagne. Donc si tu disais,
il y a l'Écosse avant.
Oui, mais enfin, c'est vrai que dans ce groupe-là, tu as intérêt de prendre les points avant de rencontrer l'Allemagne. Exactement. Donc, c'est vrai que pour eux, c'était très fort.
Non, mais
il y a un truc quand même, Polo, sur le... Tu parles d'expérience, c'est vrai. Je te parle de banc parce que, tu vois, par rapport à ce qu'on a vu de l'Italie ce soir, j'ai plus l'impression que le banc suisse, et c'était le cas, même si à la 91e, il y a eu l'action de Rieder avant, pouvait aider et marquer ce troisième but et faire le break, que le banc italien, par exemple, pour l'Italie.
Exactement.
Donc tu as quand même un truc, moi ce que je vais regarder dans cet Euro, c'est aussi physiquement comment tu arrives à changer. Aujourd'hui c'est plus le même foot, tu changes 5 joueurs, c'est des squads, tu vois. Donc quand tu vois que ça crampe déjà à 15 minutes de la fin dans la plupart des matchs là, il va falloir que tu regardes un peu physiquement.
Alors ils ont beaucoup parlé en Suisse de ça, et ils se demandent si tout le monde s'alimente bien, se boit beaucoup, etc. Ils ne savent pas trop, ils ont été très surpris par le fait que les Suisses aient beaucoup de crampes aussi. Donc tout ça on va voir, mais je vois juste autre chose. Bologne est l'équipe surprise en Serie A.
Oui, avec 3 Suisses.
Ah ouais, avec 3 Suisses. Ça me rappelle le milieu de terrain de Naples il y a quelques années lorsqu'on a découvert la Suisse. C'est-à-dire que cette équipe, elle a du qualité. Elle a de la qualité. Je te jure qu'elle revient de très loin. Quand je voyais des débats en Suisse, c'était assez exceptionnel. Et mes potes journalistes en Suisse, quand je discutais avec eux, ils disaient, mais c'est fini pour nous, c'est le fin de cycle. Or, à part l'Euro 2012 où ils ne sont pas là, bah, tu sens qu'ils vont encore aller en huitième à chaque fois. Ensuite, Moi, j'aimerais que ça s'exprime un peu plus. Le cas Shaqiri, ça va être passionnant à suivre, parce que quand tu connais l'ego du bonhomme, ça va pas le faire de faire un euro sur le banc. Hein. Bah, il y a un moment, il va falloir qu'il trouve.
Plutôt Shaq qui pleure.
Ah oui, c'est exactement ça. Oui.
Tiens, Christopher est là.
Il peut pas dire pas mal sur celle-là. J'aime.
Christopher est d'origine suisse. Non, elle est bien. C'est sa meilleure de la soirée. Salut, Christopher.
Et pour bonsoir, dire messieurs.
Toi aussi, t'as été positivement surpris.
Ah, très, très, très surpris. Bon, Polo a pris tous les arguments que j'avais prévus, mais il est là pour ça. Non, très, très surpris. Comme il l'a dit, on sort d'une phase de qualification très, très compliquée dans un groupe qui était vraiment faible. Hein. On avait l'Israël, le Kosovo, la Roumanie, et on n'a même pas réussi à finir en tête du groupe. Hein. Donc, on partait vraiment pas serein pour l'Euro. Et là, j'ai vu un match. Honnêtement, je ne sais pas ce que Polo en pense, mais je ne me rappelle pas avoir vu la Suisse aussi sereine et gérer un match comme ça en phase finale.
Pas la seconde mi-temps. Pas quand tu mets 2-0.
Pas la seconde mi-temps.
À un moment, pendant 15-20, tu flottes. À l'image de ce qui se passe en Suisse, hein, je parle sous ton contrôle, le nombre de buts qui sont pris en seconde mi-temps, alors que tu menais au score, exactement. Mais franchement, moi, je les mets toujours comme outsider à la Suisse. Tu parles de mes dépendances, mais il faut voir la qualité. Tous les deux ans, ils se renouvellent en amenant 2-3 joueurs, ouais. etc. Mais franchement, t'as le sentiment, ce côté expérience, qu'on c'est parle ça, dans les tournois, ils l'ont, quels que soient les sélectionneurs. À la rigueur, t'as même pas besoin de sélectionneur. Tu sens que c'est Xhaka, que c'est Sommer, c'est Freuler aujourd'hui. Là, il a mis cher à la place d'Elvidi. Bon, d'Elvidi, on mettra Elvidi la prochaine fois, on s'en fiche complètement.
À Kanji, patron. Hein.
Et à Kanji, évidemment. Et puis, il y a quand même... Alors, moi, j'attends ça, honnêtement. Parce que si Shaqiri passe 15 jours sans rien dire, je veux bien le...
Oui, bon, bah, il a peut-être aussi le sens du collectif, notre ami Shaqiri.
Ouais, enfin, c'est surtout la qualité technique qu'il a. Et même s'il ne peut pas tenir...
Il ira faire de la muscu, il aime bien.
Oui, il va souvent
McDo. Vu ce qu'a fait Yakin aujourd'hui... t'es pas à l'abri justement qu'il te sorte d'autres surprises, y compris du Shaqiri sur le terrain. Je pense que là il est dans et là, avec un coup comme ça tu gagnes aussi ton vestiaire, parce que tu imposes un truc qui est très différent, tu prouves que t'as eu raison très vite avec le but. Il y a une petite incertitude, mais il n'était pas hors jeu derrière. Voilà, tes choix sont validés. Je peux te dire qu'effectivement là il part pour la suite de l'Euro ultra renforcé, quoi.
Sur Murat Yakin, Christopher, t'es d'accord avec Polo?
Ah, complètement. Alors moi j'étais de ceux qui espéraient son départ, hein, après la phase de qualification, parce que c'était, comme a dit Polo, on a perdu, il me semble, 8 points sur les 5 derniers matchs dans les 5 dernières minutes. Voilà. C'est donc ça. Forcément, pour nous, on le voyait forcément partir. Honnêtement, je pensais voir Favre ou autre, mais bon, là on peut constater qu'il a réussi. Après, il faut quand même dire que la Hongrie, moi j'attendais un match beaucoup plus serré que ça.
Est-ce
que tu peux me confirmer qu'en Suisse, on dit que Murat Yakin ne fout pas grand-chose aux entraînements?
Oui, tu l'as dit tout à l'heure, là, je ne sais pas comment on peut comparer en France, mais Yakin, ils vont le chercher à Chafouz qui joue le maintien en deuxième division, voire en troisième. C'est un peu comme si nous, pour remplacer Deschamps l'année prochaine, on allait chercher le coach de Pau, quoi, voilà.
Et le coach de Pau, Nicolas Isaïe, qui est un très bon entraîneur.
Oui, mais je ne remets pas en cause, mais voilà, tu auras compris, Kevin, la comparaison.
Avant d'être à Chafouz, il était quand même à Bâle. C'est un gars.
Ouais, à Bâle, en tant que joueur, en tant que coach, ça passe.
Comment vous dites cette petite commune en deuxième division, là, Chafouz?
Chafouz, oui, sur le lac de Chafouz, frontière allemande.
Très bien. D'ailleurs, mais comme je vais passer par la Suisse cet été, je vais aller à Chafouz.
Tu peux aller au lac de Chafouz.
Lac de Chafouz.
Ah, très joli. Bon, le lac de Constance, c'est un peu plus sympa, hein, si tu veux, Flo.
D'accord. Bon,
je préfère Lugano, moi.
Ok.
Côté italien.
Très sympa, le lac Léman, ouais, c'est. J'ai traversé à la nage, j'ai traversé en 11 secondes 3.
Oui, bien sûr.
Quoi, le lac en jet ski, alors.
Quel mytho.
En jet ski.
Merci, Christopher.
Bah, de rien, juste un petit message avant de vous laisser, parce que je sais qu'il m'écoute. Guigui, tu peux être couché. Demain, on a déménagement, je serai là. T'inquiète pas.
Très bien. Bon déménagement. J'ai un dernier mot sur les Suisses. Je regarde quand même sur le banc des remplaçants. Moi, je regarde beaucoup les gardiens de but. Donc, t'as Sommer dans les buts, t'as Kobel et Mbogo. Je peux te dire que t'es peinard, hein, parce que moi j'aime beaucoup aussi Mbogo, donc t'es bien, quoi. T'es serein.
Polo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne soirée. Prépare l'Autriche. Hein.
Je suis prêt, moi.
Surtout, prépare-toi pour 15h demain. Pour voir enfin une équipe de foot.
Il parle des Pays-Bas.
Pays-Bas, Polo. Les amateurs, là.
C'est l'heure de la sieste pour Polo.
franchement, Polo, ciao. Par contre, si les Pays-Bas ils éliminent l'Allemagne, tu vas m'entendre.
Bah, t'as pas vécu ça depuis 88, hein, quand même. Donc ça peut ça arrive une fois tous les 50 ans. Quoi. Allez, ciao.
Salut Polo. Dans un instant, l'équipe de France et le reste de l'actu du jour dans l'After. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à minuit 30. L'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 20, la Libre Antenne arrive dans 10 minutes. En attendant, Florent Gautreau est là, Kevin Diaz est là également. L'équipe de France dans quelques secondes. Quelques messages sur Direct Studio. J'ai au hasard Aurélie Nicotte qui nous dit « Avec Chaka et Shaqiri, l'Albanie aurait sans doute explosé l'Italie. » Oui, bah oui, ils ne jouent pas pour l'Albanie. C'est comme ça, ils ont choisi la Suisse, alors que certains Albanais qui ont grandi en Suisse ont choisi l'Albanie. Voilà, tout est possible. Et on nous dit, Kago nous dit, vous n'avez pas commenté le penalty arrêté mais refusé des Croates, parce qu'il nous signale que le gardien espagnol était en avance sur sa ligne et que personne l'a vu.
Bon, d'accord.
Le pénalty a été refusé pour hors-jeu.
Ça dépend.
Bon, ça aurait pas changé grand-chose, parce que de toute façon.
Ça dépend parce que là, ça dépend aussi à quel moment il arrête. Et puis moi, ce truc du pied sur la ligne, si c'est un centimètre devant, c'est très très difficile à voir au vu de la ligne. C'est pas la goal line, quoi.
Oui.
Donc avec la caméra, t'es jamais sûr.
Par contre, il y a toujours des histoires de hors-jeu. Il y a une magnifique. Maintenant, on voit ça, une infographie là qui nous est montrée. Mais on ne te montre jamais le départ du ballon. C'est insupportable.
Oui.
Tu serais bien quand un demi-centimètre, départ de ballon, si l'image est mal arrêtée, ça te fait le hors-jeu en fait.
Parce que, est-ce que c'est les hors-jeux automatiques comme à la Coupe du Monde? Parce que dans ce cas-là, s'il y a une puce dans le ballon, on peut considérer que c'est le bon moment.
C'est soi-disant semi-automatique.
Ouais, bah, si c'est semi-automatique, on peut quand même leur faire confiance.
Donc la puce qui est dans le ballon, explique-moi Kevin, la puce qui est dans le ballon...
Non mais aujourd'hui, avec les technologies...
Tu prends quand l'image? Quand le ballon est encore au contact du pied du passeur, oui. Ou quand il est sorti du pied du passeur?
Non, le dernier moment où il est au contact du pied.
Bon. Et la technologie peut te définir ça.
Ah, aujourd'hui, regarde, avec ton téléphone, tu le regardes, il s'ouvre tout seul. Il y a un moment, je pense que tu peux avoir une puce qui te dit quand est-ce que le ballon a été touché la dernière fois.
Je ne sais pas.
Je pense.
Mais sur les images, en tout cas, on ne voit jamais.
Non, sur les images, c'est impossible. Le révélateur, c'est
très chiant.
Oui. Non, mais c'est clair.
C'est toujours sujet à caution, du coup.
Et du coup, là, le pénalty a été refusé parce que c'est le gardien.
Non, il a été refusé d'abord parce que Perisic était dans la surface.
Ok.
Au moment où il a été frappé.
Ok, ouais, c'était ça. Ouais. Voilà. J'avais un doute sur l'image.
Marcus Thuram, on va l'entendre. D'abord, je vous signale que l'équipe de France s'est entraînée. Mbappé s'est entraîné. Voilà, Tchouaméni en revient doucement. Donc voilà, pas grand-chose sur le plan sportif à signaler. Mais écoutons Marcus Thuram, parce que ça a fait beaucoup réagir. On a entendu hier soir Ousmane Dembélé, Olivier Giroud. En fait, chaque joueur qui passe en conférence de presse est interrogé sur les futures élections, sur l'enjeu des législatives à venir. Hier, on a commencé le débat. La Fédé s'est même fendue d'un communiqué aujourd'hui, disant que la Fédération tenait à préciser qu'elle était, vu sa mission de service public, neutre. Tout à fait neutre, mais qu'elle n'empêchait absolument pas les joueurs de s'exprimer. Voilà, bon. Enfin, un communiqué qui n'arrivait pas à grand-chose, à vrai dire. Mais voilà Marcus Thuram qui, aujourd'hui, lui, non seulement prend position sur le vote, mais également sur le contenu de son vote et ce qu'il faut faire. Il donne des consignes de vote, quoi, Marcus Thuram. C'est le premier à le faire, après qu'on ait vu passer Dembélé et Giroud. On écoute.
J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, faut, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. En équipe de France, tout le monde, enfin j'espère tout le monde partage le même avis que moi. Et après, je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous et juste dire qu'il faut aller voter, mais je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation.
Bon, tel père, tel fils. Discours, moi je l'ai dit en introduction, dans les trois points rares, parce que comme le rappelait Philippe Diallo, certes, et c'était de... ça ne m'a pas étonné de lui, mais ils sont en délégation de service public, il y a une certaine neutralité, mais il dit qu'individuellement, chaque joueur peut se...
Tu sens quand même que le sujet dérange. Ah, pour que la Fédé te ponde
à
communiquer...
En fait, Diallo a appelé Griezmann et Mbappé...
Le sujet dérange.
Diallo a appelé Griezmann et Mbappé pour expliquer ça. C'est-à-dire qu'il a quelque part rappelé, en gros, très clairement, qu'il était bon de dire qu'il fallait aller voter, par exemple, mais pas plus. Mmh. Alors que Thuram, lui, dit clairement à la fin de son intervention, de dire qu'il faut aller voter, mais ça ne suffit pas. Voilà. Alors ça, après, ça ne appartient qu'à lui. Moi, je ne dis pas que tous les autres doivent se prononcer. Je dis juste que ce qu'a fait Marcus Thuram est un acte en pleine compétition, devant les micros, et alors qu'on se plaint souvent que tout le monde se planque, personne n'est obligé de le faire, mais le fait qu'il l'ait fait est quelque chose de très courageux de sa part, quelle que soit l'opinion qu'il a à défendre. Après, là où ça m'a
il
étonné...
Il met un peu tout le monde dans la sauce, d'ailleurs.
Parce il a dit, je pense que tout le monde pense comme moi.
Bon, Dembélé, on l'avait compris aussi.
Ça, pour le coup, chacun a le droit de voter pour qui il veut et de penser ce qu'il pense. En revanche, moi, je parle juste de la prise de position. C'est suffisamment rare, tu le sais, quand on pose une question en conférence de presse, notamment avec l'équipe de France, d'avoir une réponse aussi claire et aussi nette. C'est pas simple derrière d'assumer tout ça. Parce que je peux te dire que Marcus Thuram, il va en entendre des vertes et des pas mûres. Et il l'a fait. Donc, je dis juste que c'est un acte courageux. Peu importe le message, je dis juste que le fait de le faire est un acte courageux.
Alors, tu dis ça. On a observé les réactions sur les réseaux sociaux suite aux déclarations de Thuram. Et effectivement, il y a des choses étonnantes, Kevin.
Ouais, il y a des choses étonnantes, mais bon, déjà, je vais aller dans le sens de Flo. C'est vrai que c'est très courageux. En tout cas, moi, c'est la première réaction que j'ai eue, c'est que bien sûr, bon, moi, j'avais très jeune, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai lu le premier livre qu'avait fait son père. Et bien sûr, c'est quelqu'un, Lilian Thuram, qui était très engagé. Donc que ce soit son fils.
Tu as vu toi pour lire plein de livres, Kevin. T'inquiète pas.
Hein, bien sûr. Non, mais bien sûr, mais j'ai pas forcément le temps. J'aime bien lire, mais j'ai pas le temps.
Un quart d'heure le soir au lit, tranquille.
Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer de le
faire. Le même pour bien dormir, de lire.
Ouais, mais je sais.
Tu poses ton téléphone.
Ouais. Bah, en général, sur mon téléphone, je lis. Hein,
mais la lumière bleue, c'est pas bon.
Ouais. La lumière bleue, elle est pas bonne. Donc, en gros, tout ça pour dire que Lilian Thuram, c'est quelqu'un qui a toujours été très engagé. Et donc, que son fils ou que ses fils le soient également, ça ne me surprend pas du tout. Et en tout cas, être si jeune et être un footballeur de l'équipe de France et avoir une prise de position aussi claire, je trouve que c'est à saluer. Après, il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui seront d'accord. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs en dessous la petite vidéo. Bon, après, c'est clair que Twitter, anciennement Twitter et maintenant X, c'est quand même un petit peu, en tout cas pour certains commentaires, les bas-fonds de la société. Mais en tout cas, c'est vrai que certains commentaires qui allaient jusqu'à dire que certains étaient presque démotivés de supporter l'équipe de France après ce genre de déclaration d'un de ses joueurs, je trouve que c'est quand même largement disproportionné. Autant chacun a le droit de voter pour qui il veut, autant chaque joueur a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, tant que c'est dans le respect de chacun. Et puis ensuite, moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé de la part de la Fédération française, c'est la photo d'équipe. La photo d'équipe cette semaine, d'ailleurs, que j'ai retweetée. Et avec cette phrase, l'équipe de France, c'est l'équipe de toute la France. Et en effet, n'en déplaise à certains, s'il y a bien une partie de la société, des fois c'est positif, des fois ça l'est un peu moins, mais qui représente au mieux la diversité de ce pays, ça reste quand même l'équipe de France de football et les équipes de France en général.
Mais
alors, s'il y a eu un communiqué de la Fédé,
juste sur les commentaires, et ce qui a suivi, pour aussi écouter bien ce qui se dit partout, tout le temps, et dans tous les endroits que je peux fréquenter, tu as aussi des gens qui disent l'inverse.
Bien sûr,
ils disent que ça ne représente pas.
Heureusement, il y en a beaucoup qui disent l'inverse.
Non, mais tu vois, qui disent que ça ne représente. Non, mais je veux dire, qui disent l'inverse de ce qu'a dit la Fédé, c'est-à-dire que ça ne représente pas la France. Et malheureusement, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que ce message qu'on entend
si
souvent
avec ton communiqué,
c'est élevé, c'est de dire je suis désolé. Pour être très clair, hein, les trucs qu'on entend, il y a trop de blagues dans cette équipe de France, ça ne représente pas la France. C'est un truc que j'entends aussi énormément, pour te dire l'état dans lequel on est, malheureusement, bien sûr.
Et si la Fédé a fait ce communiqué, c'est aussi parce que des politiques comme Fabien Roussel, par exemple, a envoyé une lettre à l'équipe de France, le secrétaire national du Parti communiste, et il a demandé aux joueurs de se mobiliser pour faire obstacle à l'arrivée au pouvoir du RN. Donc voilà la démarche de Fabien Roussel.
Il a joué au foot, mais jeune. Il a joué en cadet, Roussel.
Pas mal. Roussel aussi aujourd'hui a parlé de Thuram en disant, prenons l'exemple de Thuram et tout, c'était sur BFM TV cet après-midi.
Mais rappelez-vous, pour rappeler Thuram et juste faire le lien avec l'histoire de l'équipe de France, sa réaction très juste, très dure, le soir de France-Algérie, quand le Stade de France avait été envahi par les jeunes, pour certains d'origine algérienne, parce qu'il y avait plein de gens qui envahissaient le stade, et il avait dit, mais c'est vous mettez une balle dans le pied, vous tirez une balle dans le pied en faisant ça, c'est exactement ce qu'attendaient les gens qui vous critiquent et qui vous... et qui sont contre vous. Donc voilà, les chiens ne font pas des chats.
C'est fini pour ce soir. La Libre Antenne arrive, Libre Antenne de l'After avec Thibaut, Oussem et leurs invités, bien sûr, comme tous les soirs. Les gars, c'est à vous. Et merci Kevin, merci Flo.
Et à demain.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro.